Alphonse Daudet, Le Nabab. Chapitre 10. Mémoire d'un garçon de bureau, les domestiques. Vraiment, la fortune à Paris a des tours de roue vertigineux. Avoir vu la caisse territoriale comme je l'ai vue, des pièces sans feu, jamais balayées, le désert avec sa poussière, au-dessus de protêts sur les bureaux, tous les 8 jours une affiche de vente à la porte, mon fricot répandant là-dessus l'odeur d'une cuisine de pauvre. Puis, assister maintenant à la reconstitution de notre société dans ces salons meublés à neuf, où je suis chargée d'allumer des feux de ministère au milieu d'une foule affairée, de coups de sifflet, des sonnettes électriques, des piles d'écus qui s'écroulent, cela tient du prodige. Il faut que je me regarde moi-même pour y croire, que j'aperçoive dans une glace mon habit gris de fer, rehaussé d'argent, ma cravate blanche, ma chaîne d'huissier, comme j'en avais une à la faculté les jours de séance, et dire que pour opérer cette transformation, pour ramener sur nos fronts la gaieté mère de la concorde, rendre à notre papier sa valeur décuplée, à notre cher gouverneur l'estime et la confiance dont il était si injustement privé, il a suffi d'un homme, de ce Richard surnaturel que les 100 voix de la renommée désignent sous le nom du Nabab. Oh, la première fois qu'il est venu dans les bureaux, avec sa belle prestance, sa figure un peu chiffonnée peut-être, mais si distinguée, ses manières d'un habitué des cours à tuer à toi avec tous les princes d'Orient, enfin, ce je ne sais pas quoi d'assuré et de grand que donne l'immense fortune. J'ai senti mon cœur se fondre dans mon gilet à 2 rangs de boutons. Ils auront beau dire avec leurs grands mots d'égalité, de fraternité, oh, il y a des hommes qui sont tellement au-dessus des autres qu'on voudrait s'aplatir devant eux, trouver des formules d'adoration nouvelles pour les forcer à s'occuper de vous. Hâtons-nous d'ajouter que je n'ai eu besoin de rien de semblable pour attirer l'attention du Nabab. Comme je m'étais levée sur son passage, ému mais toujours digne, on peut se fier à Passageon, il m'a regardée en souriant et il a dit à demi-voix au jeune homme qui l'accompagnait « Quelle bonne tête de... » Puis, un mot après que je n'ai pas bien entendu, un mot en art, comme « léopard ». Pourtant non, ça ne doit pas être cela, je ne me sache pas une tête de léopard. Peut-être « jambard », quoique cependant je ne vois pas le rapport. Enfin, il a toujours dit « quelle bonne tête » et cette bienveillance m'a rendu fière. Du reste, tous ces messieurs sont avec moi d'une bonté, d'une politesse. Il paraît qu'il y a eu une discussion à mon sujet dans le conseil pour savoir si on me garderait ou si l'on me renverrait comme notre caissier, cette espèce de grincheux qui parlait toujours de faire fiche, le monde aux galères et qu'on a prié d'aller fabriquer ailleurs ses 2 vins de chemise économique. Bien fait, ça lui apprendra à être grossier avec les gens. Pour moi, monsieur le gouverneur a bien voulu oublier mes paroles un peu vives en souvenir de mes états de service à la territoriale et ailleurs. Et à la sortie du conseil, il m'a dit avec son accent musical « Passageon, vous nous restez ». On se figure si j'ai été heureux, si je me suis confondu en marque de reconnaissance. Songez donc, je serais parti avec mes 4 sous sans espoir d'en gagner jamais d'autres, obligé d'aller cultiver ma vigne dans ce petit pays de Montbard, bien étroit pour un homme qui a vécu au milieu de toute l'aristocratie financière de Paris et des coups de banque qui font les fortunes. Au lieu de cela, me voilà établi à nouveau dans une place magnifique, ma garde-robe renouvelée, et mes économies que j'ai palpées tout un jour, confiées aux bons soins du gouverneur qui s'est chargé de les faire fructifier. Je crois qu'il s'y entend à la manœuvre, celui-là. Et pas la moindre inquiétude à avoir. Toutes les craintes s'évanouissent devant le mot à la mode en ce moment, dans tous les conseils d'administration, dans toutes les réunions d'actionnaires, à la bourse, sur les boulevards et partout. Le Nabab est dans l'affaire. C'est-à-dire, l'or déborde. Les pires combinaciones sont excellentes. Il est si riche, cet homme-là. Riche à un point qu'on ne peut pas croire. Est-ce qu'il ne vient pas de prêter de la main à la main 15 millions au bey de Tunis? Je dis bien 15 millions! Histoire de faire une niche ou émerlingue qui voulait le brouiller avec ce monarque et lui couper l'herbe sous le pied dans ces beaux pays d'Orient où elle pousse dorée, haute et drue. C'est un vieux turc que je connais, le colonel Brahim, un de nos conseillers à la territoriale, qui a arrangé cette affaire. Naturellement, le bey qui se trouvait, paraît-il, à court d'argent de poche, a été très touché de l'empressement du Nabab à l'obliger, et il vient de lui envoyer par Brahim une lettre de remerciement dans laquelle il lui annonce qu'à son prochain voyage à Vichy, il passera 2 jours chez lui à ce beau château de Saint-Romand que l'ancien bey, le frère de celui-ci, a déjà honoré de sa visite. Vous pensez quel honneur, recevoir un prince régnant! Les Hémerlinx sont dans une rage. Eux qui avaient si bien manœuvré le fils à Tunis, le père à Paris, pour mettre le nabab en défaveur. Ha, c'est vrai aussi que 15 millions sont une grosse somme. Et ne dites pas « passageons-nous en compte ». La personne qui m'a mis au courant de l'histoire a tenu entre ses mains le papier envoyé par le bey dans une enveloppe de soie verte, timbrée du sceau royal. Si elle ne l'a pas lu, c'est que ce papier était écrit en lettres arabes, sans quoi elle en aurait pris connaissance, comme de toute la correspondance du nabab. Cette personne, c'est son valet de chambre, Monsieur Noël, auquel j'ai eu l'honneur d'être présenté vendredi dernier, à une petite soirée de gens en condition qu'il offrait à tout son entourage. Je consigne le récit de cette fête dans mes mémoires comme une des choses les plus curieuses que j'ai vues pendant mes 4 ans passés de séjour à Paris. J'avais cru d'abord, quand Monsieur Francis, le valet de chambre de mon pavon, me parla de la chose, qu'il s'agissait d'une de ces petites boustifailles clandestines, comme on en fait quelquefois dans les mansardes de notre boulevard, avec les restes montés par Mademoiselle Séraphine et les autres cuisinières de la maison, où l'on boit du vin volé, où l'on s'empiffre, assis sur des malles, avec le tremblement de la peur et 2 bougies qu'on éteint au moindre craquement dans les couloirs. Ces cachotteries répugnent à mon caractère, mais quand je reçus, comme pour le bal, des gens de maison, une invitation sur papier rose écrite d'une très belle main, Monsieur Noël prie Monsieur de se rendre à s'asseoir du 25 courant. On soupera. Je vis bien, malgré l'orthographe défectueuse, qu'il s'agissait de quelque chose de sérieux et d'autorité. Je m'habillai donc de ma plus neuve redingote, de mon linge le plus fin, et me rendis place Vendôme à l'adresse indiquée par l'invitation. Monsieur Noël avait profité pour donner sa fête d'une première représentation à l'opéra, où la belle société se rendait en masse, ce qui mettait jusqu'à minuit la bride sur le cou à tout le service et la baraque entière à notre disposition. Nonobstant, l'amphitryon avait préféré nous recevoir en haut, dans sa chambre, et je l'approuvais fort, étant en cela de l'avis du bonhomme, fi du plaisir que la crainte peut corrompre. Mais parlez-moi des combles de la place Vendôme. Un tapis feutre sur le carreau, le lit caché dans une alcôve, des rideaux d'algérienne à raies rouges, une pendule à sujet en marbre vert, le tout éclairé par des lampes modérateurs. Notre doyen, M. Chalmette, n'est pas mieux logé que cela à Dijon. J'arrivais sur les 9 heures avec le vieux Francis à mon pavon, et je dois avouer que mon entrée fit sensation, précédée que j'étais par mon passé académique, ma réputation de civilité et de grand savoir. Ma belle mine fit le reste, car il faut bien dire qu'on sait se présenter. Monsieur Noël, en habit noir, très brun de peau, favori en côtelette, vint au-devant de nous. « Soyez le bienvenu, monsieur Passageon, » me dit-il, en prenant ma casquette à galon d'argent que j'avais gardée pour entrer à la main droite selon l'usage. Il la donna à un nègre gigantesque en livrée rouge et or. « Tiens, Lagdard, accroche ça, et ça, » ajouta-t-il par manière de risée, en lui allongeant un coup de pied à un certain endroit du dos. On rit beaucoup de cette saillie, et nous nous mîmes à causer d'amitié. Un excellent garçon, ce monsieur Noël, avec son accent du midi, sa tournure décidée, la rondeur et la simplicité de ses manières. Il m'a fait penser au nabab, moins la distinction toutefois. J'ai remarqué d'ailleurs ce soir-là que ces ressemblances sont fréquentes chez les valets de chambre qui, vivant en commun avec leur maître, dont ils sont toujours un peu éblouis, finissent par prendre de leur genre et de leur façon. Ainsi, Monsieur Francis a un certain redressement du corps en étalant son plastron de linge, une manie de lever les bras pour tirer ses manchettes, c'est le mont pavon tout craché. Quelqu'un, par exemple, qui ne ressemble pas à son maître, c'est Joey, le cocher du docteur Jenkins. Je l'appelle Joey, mais à la soirée, tout le monde l'appelait Jenkins, car dans ce monde-là, les gens d'écurie se donnent entre eux le nom de leur patron, se traitent de Boilerie, de mont pavon et de Jenkins, tout court. Est-ce pour avilir les supérieurs ? Relever la domesticité ? Chaque pays a ses usages. Il n'y a qu'un sot qui doive s'en étonner. Pour en revenir à Joey Jenkins, comment le docteur si affable, si parfait de tout point peut-il garder à son service cette brute gonflée de porteurs et de djinns qui reste silencieuse pendant des heures, puis, au premier coup de boisson dans la tête, se met à hurler, à vouloir boxer tout le monde, à preuve la scène scandaleuse qui venait d'avoir lieu quand nous sommes entrés. Le petit groom du marquis, Tom Boilerie, comme on l'appelle ici, avait voulu rire avec ce malotru d'Irlandais qui, sur une raillerie de gamin parisien, lui avait riposté par un terrible coup de poing de Belfast au milieu de la figure. « Saucisson à pâte, moi ? Saucisson à pâte, moi ?» répétait le cocher en suffoquant, tandis qu'on emportait son innocente victime dans la pièce d'à côté, où ces dames et demoiselles étaient en train de lui bassiner le nez. L'agitation s'apaisa bientôt grâce à notre arrivée, grâce aussi aux sages paroles de Monsieur Barrault, un homme d'âge posé et majestueux dans mon genre. C'est le cuisinier du Nabab, un ancien chef du café anglais que Cardaillac, le directeur des nouveautés, a procuré à son ami. À le voir en habit, cravate blanche, sa belle figure pleine et rasée, vous l'auriez pris pour un des grands fonctionnaires de l'Empire. Il est vrai qu'un cuisinier dans une maison où l'on a tous les matins la table mise pour 30 personnes, plus le couvert de madame, tout cela se nourrissant de faim et de surfaim, n'est pas un fricoteur ordinaire. Il touche des appointements de colonel, logé, nourri et puis la gratte. On ne s'imagine pas ce que c'est que la gratte dans une boîte comme celle-ci. Aussi chacun lui parlait-il respectueusement, avec les égards dus à un homme de son importance. Monsieur Barrault par-ci, mon cher monsieur Barrault par-là. C'est qu'il ne faut pas s'imaginer que les gens de maison entre eux soient tous compères et compagnons. Nulle part plus que chez eux on observe la hiérarchie. Ainsi j'ai bien vu à la soirée de Monsieur Noël que les cochers ne frayaient pas avec leurs palefreniers, ni les valets de chambre avec les valets de pied et les chasseurs, pas plus que l'argentier, le maître d'hôtel, ne se mêlait au bas office. Et lorsque Monsieur Barrault faisait une petite plaisanterie quelconque, c'était plaisir de voir comme ses sous-ordres avaient l'air de s'amuser. Je ne suis pas contre ces choses-là, bien au contraire. Comme disait notre doyen, une société sans hiérarchie, c'est une maison sans escalier. Seulement, le fait m'a paru bon à relater dans ses mémoires. La soirée, je n'ai pas besoin de le dire, ne jouit de tout son éclat qu'au retour de son plus bel ornement, les dames et demoiselles qui étaient allées soigner le petit homme, femmes de chambre aux cheveux luisants et pommadés, femmes de charge en bonnet garni de rubans, négresses, gouvernantes, brillantes assemblées, où j'eus tout de suite beaucoup de prestige grâce à ma tenue respectable et au surnom de mon oncle que les plus jeunes parmi ces aimables personnes voulurent bien me donner. Je pense qu'il y avait là pas mal de friperies, de la soie, de la dentelle, même du velours assez fané, des gants à 8 boutons nettoyés plusieurs fois et de la parfumerie ramassée sur la toilette de madame. Mais les visages étaient contents, les esprits tout à la gaieté, et je sus me faire un petit coin très animé, toujours à la convenance, cela va sans dire, et comme il sied à un individu dans ma position. Ce fut du reste le ton général de la soirée. Jusque vers la fin du repas, je n'entendis aucun de ces propos malséants, aucune de ces histoires scandaleuses qui amusent si fort ces messieurs du conseil. Et je me plais à constater que Boileri le cocher, pour ne citer que celui-là, est autrement bien élevé que Boileri le maître. Monsieur Noël, seul, tranchait par son ton familier et la vivacité de ses réparties. En voilà un qui ne se gêne pas pour appeler les choses par leur nom. C'est ainsi qu'il disait tout haut à Monsieur Francis d'un bout à l'autre du salon. « Dis donc, Francis, ton vieux filou nous a encore tiré une carotte cette semaine !» Et comme l'autre se rengorgeait d'un air digne, Monsieur Noël s'est mis à rire. « T'offusque pas, ma vieille, le coffre est solide, vous n'en viendrez jamais à bout !» Et c'est alors qu'il nous a raconté le prêt des 15 millions dont j'ai parlé plus haut. Cependant, je m'étonnais de ne voir faire aucun préparatif pour ce souper que mentionnaient les cartes d'invitation, et je manifestais tout bas mon inquiétude à une de mes charmantes nièces qui me répondit « On attend Monsieur Louis. »« Monsieur Louis ? Comment ? Vous ne connaissez pas Monsieur Louis, le valet de chambre du duc de Morat ?» On m'apprit alors ce qu'était cet influent personnage dont les préfets, les sénateurs, même les ministres recherchent la protection et qui doit la leur faire payer salé puisqu'avec ses 1200 francs d'appointement chez le duc, il a économisé 25 000 livres de rente, qu'il a ses demoiselles en pension au Sacré-Cœur, son garçon au collège Bourdaloue et un chalet en Suisse où toute la famille va s'installer aux vacances. Le personnage arriva par là-dessus, mais rien dans son physique n'aurait fait deviner cette position unique à Paris. Pas de majesté dans la tournure, un gilet boutonné jusqu'au col, l'air chafouin et insolent, et une façon de parler sans remuer les lèvres bien malhonnête pour ceux qui vous écoutent. Il salua l'assemblée d'un léger mouvement de tête, tendit un doigt à Monsieur Noël, et nous étions là à nous regarder, glacés par ses grandes manières, quand une porte s'ouvrit au fond, et le souper nous apparut avec toutes sortes de viandes froides, des pyramides de fruits, des bouteilles de toutes les formes, sous les feux de 2 candélabres. « Allons, messieurs, la main aux dames !» En 1 minute, nous voici installés. Ces dames assises avec les plus âgés ou les plus conséquents de nous, tous les autres debout, servant, bavardant, buvant dans tous les verres, piquant un morceau dans toutes les assiettes. J'avais Monsieur Francis pour voisin, et je dus entendre ses rancunes contre Monsieur Louis, dont il jalousait la place si belle en comparaison de celle qu'il occupait chez son décavé de la noblesse. « C'est un parvenu !» me disait-il tout bas. « Il doit sa fortune à sa femme, à Madame Paul. » Il paraît que cette Madame Paul est une femme de charge depuis 20 ans chez le duc et qui s'entend comme personne à lui fabriquer une certaine pommade pour des incommodités qu'il a. Mora ne peut pas s'en passer. Voyant cela, Monsieur Louis a fait la cour à cette vieille dame, l'a épousée, quoique bien plus jeune qu'elle, et afin de ne pas perdre sa garde malade aux pommades, l'excellence a pris le mari pour valet de chambre. Au fond, malgré ce que je disais à Monsieur Francis, moi je trouvais ça très bien et conforme à la plus saine morale, puisque le maire et le curé y ont passé. D'ailleurs, cet excellent repas composé de nourriture fine et très chère, que je ne connaissais pas même de nom, m'avait bien disposé l'esprit à l'indulgence et à la bonne humeur. Mais tout le monde n'était pas dans les mêmes dispositions, car j'entendais de l'autre côté de la table la voix de Basta et de Monsieur Barreau qui grondaient. « De quoi se mêle-t-il? Est-ce que je mets le nez dans son service? D'abord c'est bon pain que ça regarde, et pas lui. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'on me reproche? Le boucher m'envoie 5 paniers de viande tous les matins. Je n'en eusse que 2, je lui revends les 3 autres. Quel est le chef qui ne fait pas ça? Comme si, au lieu de venir espionner dans mon sous-sol, il ne ferait pas mieux de veiller au grand coulage de là-haut. Quand je pense qu'en 3 mois la clique du premier a fumé pour 28 000 francs de cigares, 28 000 francs, demandez à Noël si je mens. Et au second chez madame, c'est là qu'il y en a un beau gâchis de linge, de robes jetés au bout d'une fois, des bijoux à poignets, des perles qu'on écrase en marchant. Oh, mais attends un peu, je te le repincerai, ce petit monsieur-là. » Je compris qu'il s'agissait de Monsieur de Géry, ce jeune secrétaire du nabab qui vient souvent à la territoriale, où il est toujours à farfouiller dans les livres. Très poli, certainement, mais un garçon très fier, qui ne sait pas se faire valoir. Ça n'a été autour de la table qu'un concert de malédictions contre lui. Monsieur Louis, lui-même, a pris la parole à ce sujet avec son grand air. « Chez nous, mon cher Monsieur Barreau, le cuisinier a eu tout récemment une histoire dans le genre de la vôtre avec le chef de cabinet de son excellence qui s'était permis de lui faire quelques observations sur la dépense. Le cuisinier est monté chez le duc d'Ardard, en tenue d'office, et la main sur le cordon de son tablier. Que votre excellence choisisse entre monsieur et moi. Le duc n'a pas hésité. Des chefs de cabinet, on en trouve tant qu'on veut, tandis que les bons cuisiniers, on les connaît. Il y en a 4 en tout dans Paris. Je vous compte, mon cher Barreau. Nous avons congédié notre chef de cabinet en lui donnant une préfecture de première classe comme consolation, mais nous avons gardé notre chef de cuisine. » Ah, voilà, dit Monsieur Barreau, qui jubilait d'entendre cette histoire. Voilà ce que c'est de servir chez un grand seigneur. Mais les parvenus sont les parvenus, qu'est-ce que vous voulez? Et Jean Soulet n'est que ça, ajouta Monsieur Francis en tirant ses manchettes. Un homme qui a été portefait à Marseille. Là-dessus, Monsieur Noël prit la mouche. Eh, là-bas, vieux Francis, vous êtes tout de même bien content de l'avoir pour payer vos cuites de bouillotte, le portefait de la canne-bière. On t'en collera des parvenus comme nous, qui prêtent des millions au roi et que les grands seigneurs comme Mora ne rougissent pas d'admettre à leur table. Oh, à la campagne, ricana Monsieur Francis en faisant voir sa vieille dent. L'autre se leva, tout rouge. Il allait se fâcher. Mais Monsieur Louis fit signe avec la main qu'il avait quelque chose à dire et Monsieur Noël s'assit tout de suite, mettant comme nous tous son oreille en cornet pour ne rien perdre des augustes paroles. « C'est vrai, » disait le personnage, parlant du bout des lèvres et sirotant son vin à petits coups. « C'est vrai que nous avons reçu le nabab à grand bois l'autre semaine. Il s'est même passé quelque chose de très amusant. Nous avons beaucoup de champignons dans le second parc et son excellence s'amuse quelquefois à en ramasser. Voilà qu'à dîner, on sert un grand plat d'oranges. Il y avait là, Marigny, le ministre de l'Intérieur, mon pavon et votre maître, mon cher Noël. Les champignons font le tour de la table, ils avaient bonne mine. Ces messieurs en remplissent leurs assiettes, excepté monsieur le duc qui ne les digère pas et croit par politesse devoir dire à ses invités « Oh, vous savez, ce n'est pas que je me méfie, ils sont très sûrs, c'est moi-même qui les ai cueillis. » « Sapristi, dit mon pavon en riant. Alors, mon cher Auguste, permettez que je n'y goûte pas. » Marigny, moins familier, regardait son assiette de travers. « Mais si, mon pavon, je vous assure, ils ont l'air très sains, ces champignons. Je regrette vraiment de n'avoir plus faim. » Le duc restait très sérieux. « Ah ça, monsieur Jean Soulet, j'espère bien que vous n'allez pas me faire cet affront, vous aussi. Des champignons choisis par moi. Oh, excellence, comment donc, mais les yeux fermés ?» Vous pensez s'il avait de la veine, ce pauvre nabab, pour la première fois qu'il mangeait chez nous. Duperron, qui servait en face de lui, nous a raconté ça à l'office. Il paraît qu'il n'y avait rien de plus comique que de voir le Jean Soulet se bourrer de champignons en roulant des yeux épouvantés, pendant que les autres le regardaient curieusement sans toucher à leurs assiettes. Il en suait, le malheureux, et ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'il en a repris, il a eu le courage d'en reprendre. Seulement, il se fourrait des verrées de vin comme un maçon entre chaque bouchée. Eh bien, voulez-vous que je vous dise? C'est très malin ce qu'il a fait là, et ça ne m'étonne plus maintenant que ce gros bouvier soit devenu le favori des souverains. Il sait où les flatter, dans les petites prétentions qu'on n'avoue pas. Bref, le duc est toqué de lui depuis ce jour. » Cette historiette fit beaucoup rire et dissipa les nuages assemblés par quelques paroles imprudentes. Et alors, comme le vin avait délié les langues, que chacun se connaissait mieux, on posa les coudes sur la table et l'on se mit à parler des maîtres, des places où l'on avait servi, de ce qu'on y avait vu de drôle. Ah, j'en ai entendu de ces aventures, j'en ai vu défiler de ces intérieurs. Naturellement, j'ai fait aussi mon petit effet avec l'histoire de mon garde-manger à la territoriale. L'époque où je mettais mon fricot dans la caisse vide, ce qui n'empêchait pas notre vieux caissier, très formaliste, de changer le mot de la serrure tous les deux jours, comme s'il y avait eu dedans tous les trésors de la Banque de France. Monsieur Louis a paru prendre plaisir à mon anecdote. Mais le plus étonnant, ça a été ce que le petit Boileri, avec son accent de voyou parisien, nous a raconté du ménage de ses maîtres. Marquis et marquise de Boileri, deuxième étage boulevard Haussmann. Un mobilier comme aux Tuileries, du satin bleu sur tous les murs, des chinoiseries, des tableaux, des curiosités. Un vrai musée, quoi, débordant jusque sur le palier. Service très calé. 6 domestiques l'hiver, livrés marron, l'été, livrés nankin. On voit ces gens-là partout, au petit lundi, aux courses, aux premières représentations, aux bals d'ambassade, et toujours leur nom dans les journaux avec une remarque sur les belles toilettes de madame et le chic épatant de monsieur. Eh bien, tout ça n'est rien du tout que du fla-fla, du plaqué, de l'apparence, et quand il manque 100 sous au marquis, personne ne les lui prêterait sur ses possessions. Le mobilier est loué à la quinzaine chez Fitili, le tapissier des cocottes, les curiosités, les tableaux, appartiennent au vieux Schwalbach, qui adresse là ses clients et leur fait payer doublement cher parce qu'on ne marchande pas quand on croit acheter à un marquis, à un amateur. Pour les toilettes de la marquise, la modiste et la couturière les lui fournissent à l'œil chaque saison, lui font porter les modes nouvelles un peu cocasses parfois, mais que la société adopte ensuite, parce que madame est très belle femme encore et réputée pour l'élégance. C'est ce qu'on appelle une lanceuse. Enfin, les domestiques. Provisoires comme le reste, changés tous les 8 jours au gré du bureau de placement qui les envoie là faire un stage pour les places sérieuses. Si l'on n'a ni répondant ni certificat, qu'on tombe de prison ou d'ailleurs, Glanant, le grand placier de la rue de la Paix, vous expédie boulevard Haussmann. On sert 1-2 semaines, le temps d'acheter les bons renseignements du marquis qui, bien entendu, ne vous paye pas et vous nourrit à peine, car dans cette maison-là, les fourneaux de la cuisine restent froids la plupart du temps, monsieur et madame s'en allant dîner en ville presque tous les soirs ou dans des bals où l'on soupe. C'est positif qu'il y a des gens à Paris qui prennent le buffet au sérieux et font le premier repas de leur journée passé minuit. Aussi, les Boileries sont renseignés sur les maisons à buffet. Ils vous diront qu'on soupe très bref à l'ambassade d'Autriche, que l'ambassade d'Espagne néglige un peu les vins, que c'est encore aux affaires étrangères qu'on trouve les meilleurs chauds-froids de volaille. Et voilà la vie de ce drôle de ménage. Rien de ce qu'ils ont ne tient sur eux. Tout est faufilé, attaché avec des épingles. Un coup de vent et tout s'envole. Mais au moins ils sont sûrs de ne rien perdre. C'est ça qui donne au marquis cet air blagueur de père tranquille, qu'il a en vous regardant, les deux mains dans ses poches, comme pour vous dire « Et après, qu'est-ce qu'on peut me faire ?» Et le petit groom, dans l'attitude susdite, avec sa tête d'enfant vieillot et vicieux, imitait si bien son patron qu'il me semblait le voir lui-même au milieu de notre conseil d'administration, planté devant le gouverneur et l'accablant de ses plaisanteries cyniques. C'est égal, il faut avouer que Paris est une fièrement grande ville, pour qu'on puisse y vivre ainsi 15 ans, 20 ans d'artifice, de ficelles, de poudre aux yeux, sans que tout le monde vous connaisse, et faire encore une entrée triomphante dans un salon derrière son nom crié à toute volée « Monsieur le marquis de Boileri !» Non, voyez-vous, ce qu'on apprend de choses dans une soirée de domestique, ce que la société parisienne est curieuse à regarder ainsi par le bas, par les sous-sols, oh, il faut y être allé pour le croire. Ainsi me trouvant entre Monsieur Francis et Monsieur Louis, voici un petit bout de conversation confidentielle que j'ai saisi sur le sire de Montpavon. Monsieur Louis disait « Vous avez tort, Francis, vous êtes en fond en ce moment, vous devriez en profiter pour rendre cet argent au trésor. » « Qu'est-ce que vous voulez ?» répondait Monsieur Francis d'un air malheureux. « Le jeu nous dévore. »« Oui, je sais bien, mais prenez garde, nous ne serons pas toujours là. Nous pouvons mourir, descendre du pouvoir, alors on vous demandera des comptes là-bas, et ce sera terrible. » J'avais bien souvent entendu chuchoter cette histoire d'un emprunt forcé de 200 000 francs que le marquis aurait fait à l'État, du temps qu'il était receveur général. Mais le témoignage de son valet de chambre était pire que tout. Ah, si les maîtres se doutaient de ce que savent les domestiques, de tout ce qu'on raconte à l'office, s'ils pouvaient voir leur nom traîner au milieu des balayures d'appartements et des détritus de cuisine, jamais ils n'oseraient plus seulement dire « fermer la porte » ou « atteler ». Voilà par exemple le docteur Jenkins, la plus riche clientèle de Paris. 10 ans de ménage avec une femme magnifique, recherchée partout, il a eu beau tout faire pour dissimuler sa situation, annoncer à l'anglaise son mariage dans les journaux, n'admettre chez lui que des domestiques étrangers sachant à peine 3 mots de français. Avec ces 3 mots, assaisonnés de jurons de faubourg et de coups de poing sur la table, son cocher Joey, qui le déteste, nous a raconté toute son histoire pendant le souper. Elle va claquer son Irlandaise, sa vraie. Savoir maintenant s'il épousera l'autre. 45 ans, Mistress Maran, et pas un shilling. Faut voir comme elle a peur d'être lâchée. L'épousera, l'épousera pas. Xxx, nous allons rire. Et plus on le faisait boire, plus il en racontait, traitant sa malheureuse maîtresse comme la dernière des dernières. Moi, j'avoue qu'elle m'intéressait, cette fausse Madame Jenkins, qui pleure dans tous les coins, supplie son amant comme le bourreau et court le risque d'être plantée là, quand toute la société la croit mariée, respectable, établie. Les autres ne faisaient qu'en rire, les femmes surtout. Dame, c'est amusant quand on est en condition de voir que ces dames de la haute ont leurs affronts aussi et des tourments qui les empêchent de dormir. Notre tablée présentait à ce moment le coup d'œil le plus animé, un cercle de figures joyeuses tendues vers cet Irlandais qui avait le pompon pour son anecdote. Cela excitait des envies. On cherchait, on ramassait dans sa mémoire ce qu'il pouvait y traîner de vieux scandales d'aventure, de maris trompés, de ses faits intimes vidés à la table de cuisine avec les fonds de plat et les fonds de bouteille. C'est que le champagne commençait à faire des siennes parmi les convives. Joey voulait danser une gigue sur la nappe. Les dames, au moindre mot un peu gai, se renversaient avec des rires aigus de personnes qu'on chatouille, laissant traîner leurs jupons brodés sous la table pleine de débris de victuailles et de graisse répandue. Monsieur Louis s'était retiré discrètement. On remplissait les verres sans les vider, une femme de charge trempait dans le sien rempli d'eau, un mouchoir dont elle se baignait le front parce que la tête lui tournait, disait-elle. Il était temps que cela finît. Et de fait, une sonnette électrique carillonnant dans le couloir nous avertissait que le valet de pied, de service au théâtre, venait appeler les cochers. Là-dessus, mon pavon porta un toast au maître de la maison en le remerciant de sa petite soirée. Monsieur Noël annonça qu'il la recommencerait à Saint-Romand, pour les fêtes du Bai, où la plupart des assistants seraient probablement invités. Et j'allais me lever à mon tour, assez habitué au repas de corps pour savoir qu'en pareille occasion le plus vieux de l'assemblée est tenu de porter une santé aux dames, quand la porte s'ouvrit brusquement et un grand valet de pied tout crotté, un parapluie ruisselant à la main, suant, essoufflé, nous cria sans respect pour la compagnie. « Mais arrivez donc, tas de mufs ! Qu'est-ce que vous fichez là, quand on vous dit que c'est fini ?